Bonjour à tous, chers auditeurs de RBA. Notre incontournable rendez-vous de l'hôpital à cœur ouvert nous amène aujourd'hui aux portes de la faculté de médecine de Limoges. L'établissement a la grande chance de bénéficier ponctuellement de la compétence d'interne en médecine générale. Je suis ravie de vous présenter mes invités du jour, Nicolas Mignot et David Mourou, tous deux internes en médecine générale, en présence de leur maître de stage, le docteur Taudin. Bonjour docteur, bonjour Nicolas, bonjour David.
Bonjour Laetitia.
Vous avez certainement déjà entendu parler des internes dans le domaine médical, mais peut-être ne connaissez-vous pas les contours exacts de cette fonction. Mes invités vont aujourd'hui nous rendre incollables sur le sujet. Je vais proposer à chacun d'entre vous de se présenter à nos auditeurs. Et même si le docteur Taudin n'a plus à l'être, je vais l'inviter à le faire sous l'angle de l'universitaire aujourd'hui. Docteur Taudin ?
Oui, bonjour. Alors, même si je n'ai pu être présenté, je vais me présenter quand même. Je suis médecin généraliste, installé depuis 30 ans dans la région de Bord-les-Orgues, après être tombé amoureux de cette région. Et il y a quelques années, j'ai décidé de me rapprocher de la faculté de Limoges pour devenir maître de stage universitaire, c'est le nom, et accompagner dans leur cursus et vers leur formation de docteur en médecine, les externes dans un premier temps, puis les internes en médecine.
Nicolas ?
Bonjour, je suis Nicolas, j'ai 32 ans, originaire d'Albi dans le Tarn, et je suis interne en médecine générale à la faculté de Limoges, actuellement en dernière année. Je réalise en ce moment mon stage de SASPAS, dont on parlera un peu plus en détail tout à l'heure. Il se déroule avec le docteur Taudin, ici à Bord-les-Orgues, ainsi que chez deux autres médecins de Corrèze. J'ai toujours été passionné par la médecine et j'ai malheureusement eu un échec en première année dans le circuit universitaire français. Et j'ai donc décidé de m'orienter vers les études en Roumanie, car je ne voyais vraiment pas ce que je pouvais faire comme autre métier. C'était une passion depuis le plus jeune âge.
Alors, David ?
Bonjour tout le monde, je m'appelle David, j'ai 30 ans. Je suis interne en 7e année de médecine. Je suis toulousain, j'ai fait mes 6 premières années dans la faculté de Toulouse. Et je viens d'arriver en novembre dernier dans la région pour faire mes 3 années d'internat.
Alors, merci pour cette présentation. Alors, l'internat est au cœur de l'histoire de la médecine.
Alors, excuse-moi de te couper, mais l'histoire de la médecine, somme toute contemporaine, car c'est Napoléon Bonaparte qui a créé le concours de républicain en même temps qu'il a créé les autres grandes écoles.
Alors, en effet, si la date officielle de la création de l'internat des hôpitaux est le 4 Ventose de l'an 10, autrement dit, le 10 février 1802, c'est un rapport rédigé un an plus tôt par 5 citoyens et adopté par un décret du consulat qui lui a véritablement donné naissance. Ces 121 articles décrivent l'essentiel des caractéristiques qui perdureront durant 2 siècles, c'est-à-dire une école de médecine très particulière, celle d'une pratique hospitalière indépendante des examens de faculté, qu'il était nécessaire de passer avec succès avant pour avancer dans le cursus universitaire. Dans ce rapport des 5 citoyens, il est clairement évoqué le caractère indispensable d'un concours réservé aux seuls externes des hospices, la séparation des élèves entre externes et internes et le fait que le temps de l'internat ne pourra excéder le terme de 4 années. Cette notion de concours, qui répondait aux soucis républicains d'écarter tout favoritisme, s'est maintenue depuis, sans exception, et a même conduit à la suppression des épreuves orales dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale.
Alors, si je ne me trompe, il s'agit tout de même d'une pratique encore plus ancienne.
Ah oui, tout à fait. Le règlement général pour le service de santé du 4 Ventose, qui précisait le recrutement et l'attribution des internes, n'innovait pas sur leur rôle. Depuis plusieurs siècles, la nécessité était apparue de faire aider les médecins et les chirurgiens des hospices par de jeunes médecins qui, tout en se rendant utiles, seraient par la même occasion formés. Ils étaient appelés les compagnons internes.
Avec un nombre de places croissant jusqu'à aujourd'hui, avec le développement des hôpitaux de Paris, le nombre de places mises au concours a considérablement augmenté au fil des ans. D'une 20aine au début, au XIXe siècle, il est passé à 40aine sous le Second Empire, 60aine à la fin du XIXe siècle. À l'heure actuelle, sur le concours 2022, au total, 9024 postes ont été ouverts contre 8791 en 2021, soit une augmentation de 233 postes en faveur de la médecine générale. Parmi eux, 913 postes sont offerts dans les spécialités chirurgicales, 7734 dans les disciplines médicales et 107 en biologie médicale.
Alors, nous pouvons peut-être dire un petit mot sur la place des femmes en fait, dans ce cursus universitaire. Madeleine Bresse est la première femme de nationalité française à accéder aux études de médecine en 1868, mais sans avoir le droit d'accéder au concours. Hein. Pour rappel, le concours a débuté en 1802. Et il faudra attendre 83 ans pour que les femmes soient enfin autorisées, en 1885, à se présenter au concours de l'internat. La première à le réussir sera en 1886 une Américaine dont j'aurai beaucoup de difficultés à prononcer le nom de famille. Donc c'était une future grande neurologue et la deuxième donc de nationalité russe un petit peu plus tard.
Madame Vilbouvevitch. Alors les choses ont bien changé quand même depuis. La majorité des postes ouverts à l'internat sont à l'heure actuelle occupés par des femmes. Et l'internat fait également écho à la recherche institutionnalisée à partir de 1948.
Oui, évidemment, bien que depuis 1802, l'internat ait donné naissance aux plus grands découvreurs de l'histoire de la médecine française, notamment trois prix Nobel, il est apparu au lendemain de la Seconde Guerre mondiale que l'internat classique, centré sur le diagnostic clinique, les soins et leur surveillance, ainsi que sur la participation aux gardes, n'était pas statutairement impliqué dans la recherche, en particulier dans la recherche biologique et les nouveaux moyens d'exploration du moment. D'où, en 1948, la création d'un fonds destiné à inciter les internes à s'initier aux techniques de la recherche. Donc ensuite, dans les années 1980, une année de recherche prise sur les quatre de l'internat a été accordée à ceux qui, à la fois, le souhaitaient et possédaient déjà une maîtrise de biologie pour préparer un diplôme d'études approfondies, que l'on appelle le DEA.
À noter qu'à la même époque, constatant que certaines spécialités comme l'ORL, l'ophtalmo, la radiologie ou la gynéco-obstétrique, pourtant en plein essor, n'étaient pas choisies par les nouveaux internes, il a été décidé de créer des certificats d'études spéciales, les CES, afin de recruter les futurs cadres de ces disciplines. L'enseignement théorique était réparti sur 2 ans, était certes de qualité, mais la formation clinique était insuffisante, d'où leur suppression quelques années plus tard, en 1984.
On peut dire également que l'évolution de l'internat est liée à la naissance des CHU. La création en 1958 des centres hospitalo-universitaires, plus connus sous le nom de CHU, qui instaurent le plein temps hospitalier, intègre dans un même corps les enseignants de médecine et les médecins des hôpitaux publics, désormais recrutés par un concours commun sur titre dans chaque spécialité. Mais l'internat, qui est déjà le premier système médical à plein temps, fonctionnant dans les hôpitaux publics, n'est pas touché.
L'internat était alors la seule voie d'accès aux spécialités.
Alors effectivement, en 1982, le concours de l'internat devient également universitaire, puisqu'il est dès lors le seul moyen d'accéder aux spécialités médicales, y compris les spécialités non soignantes comme la santé publique. Ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas passer le concours se tournent vers la médecine générale. Ils prennent le nom de résident pour éviter toute confusion avec celui d'interne.
Aujourd'hui, la médecine générale est une spécialité à part entière. Et donc, l'inscription en médecine générale, le diplôme de médecin en médecine générale, s'obtient par le concours de fin de sixième année, par les examens classants nationaux, comme les autres spécialités.
Alors justement, pouvez-vous nous présenter les grandes étapes des études de médecine ?
Alors de façon très généraliste et très succincte, on peut dire que les études sont divisées en 3 cycles qui permettent l'acquisition des compétences sous des angles différents. Le premier cycle est constitué des 2 premières années, PCEM, premier cycle des études médicales, qui permet l'apprentissage des fondamentaux, c'est-à-dire l'anatomie, la physiologie, la sémiologie, la chimie par exemple. Le deuxième cycle, qui lui s'étale de la 3e à la 6e année, concerne surtout l'acquisition des connaissances relatives aux processus physiopathologiques, aux pathologies, aux bases thérapeutiques de la prévention, complétant et approfondissant celles acquises au cours du cycle précédent. Les apprentissages des pathologies se font alors par organes, classés dans ce qu'on appelle les certificats. Sont également proposés aux étudiants une formation à la démarche scientifique, l'apprentissage du raisonnement clinique, si fondamental en médecine générale, l'acquisition des compétences génériques, qui prépare au troisième cycle des études médicales. Et donc le troisième cycle, qui est la finalisation des acquis des compétences et qui s'étale de la septième à la neuvième année jusqu'à cette année et de la septième à la dixième année pour les années suivantes.
Alors Nicolas, je me tourne vers vous. Pouvez-vous nous faire une présentation de l'externat et de l'internat pour les étudiants en médecine ?
Pour les étudiants, l'externat se déroule sur 3 ans, en quatrième, cinquième et sixième année. Lors de cet externat, le temps de l'étudiant est partagé entre l'hôpital pour une formation pratique et la faculté de médecine pour qu'il continue sa formation de base. L'externe contribue au fonctionnement des hôpitaux universitaires et travaille parmi les équipes soignantes. En sixième année, un examen national classant, qu'on appelle le concours d'internat, permet aux étudiants de choisir leur spécialité et leur lieu d'études en fonction de leur classement. Débute alors la période d'internat, dont la durée varie en fonction de la spécialité. Pour moi, 3 ans de spécialité de médecine générale. L'internat de médecine générale en 2 phases d'apprentissage distinctes, avec une mise en autonomie progressive. Tout d'abord la phase socle, puis une phase d'approfondissement. La phase socle est découpée en 2 semestres. D'abord un stage en médecine générale auprès d'un praticien agréé, comme le docteur Todin, et un stage en médecine d'urgence dans les hôpitaux. La phase d'approfondissement, quant à elle, est plus longue. Elle comporte 4 semestres. Un stage en médecine polyvalente, un stage en santé de l'enfant, puis un stage en santé de la femme, et un stage en ambulatoire, en soins primaires, en autonomie supervisée, le SASPAS.
Excusez-moi, je vous coupe. Hein. Le SASPAS est réalisé pendant les 2 derniers semestres de votre formation. C'est vraiment ce qui finalise l'internat.
Oui, tout à fait. La fin de l'internat est marquée par le passage de la thèse pour devenir docteur en médecine. La particularité des études de médecine, c'est qu'il faut être obligatoirement thésé pour exercer.
Vous voulez nous dire par là qu'on peut avoir fait tout un cursus universitaire, donc 10 ans d'études, et donc être médecin, mais ne pas pouvoir exercer si l'on n'a pas présenté de thèse et si on n'a pas un doctorat en médecine.
C'est tout à fait ça, oui.
Alors, David, vous débutez, vous, de votre côté, votre internat. Il s'agit actuellement de votre premier semestre. Alors, comment cela se déroule-t-il ?
Eh bien, j'ai passé les ECN en juin dernier, avec les résultats dans la foulée. Et puis, avec ces résultats, il y avait le classement national. À la mi-septembre, on a choisi notre spécialité, la région dans laquelle on allait faire son internat. Moi, je savais que je voulais faire de la médecine générale et que je voulais quitter Toulouse pour voir d'autres choses, en particulier de la médecine rurale. Donc, je me suis dirigé vers la faculté de Limoges.
Alors, en fait, vous expliquez qu'aujourd'hui, la médecine générale est un vrai choix. Hein.
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a un peu cette image du bas du panier pour les médecins généralistes, mais maintenant, c'est une vraie spécialité. Et il y a de nombreux étudiants très bien classés qui choisissent la médecine générale.
Alors, pour faire le lien, docteur Todin, quelles sont les prérogatives pour être maître de stage universitaire et quel est votre rôle dans le cursus de ces étudiants ?
Alors, les prérogatives, il faut déjà être installé depuis 2 ans, être médecin généraliste et puis avoir subi une formation spécifique qui comprend de la pédagogie, surtout pour devenir maître de stage et accompagner dans un premier temps les externes, puis les internes, et éventuellement être tuteur d'un élève que l'on suivra, d'un médecin que l'on suivra tout au long de son internat jusqu'à sa thèse, et puis être éventuellement maître de thèse, c'est-à-dire aider l'étudiant à préparer sa thèse qui lui permettra d'obtenir le diplôme de docteur en médecine.
Alors, est-ce que c'est un élément décorrélé du fait que vous soyez directeur de thèse ?
Oui, c'est un choix personnel. Il faut faire une formation qui permet d'accompagner les étudiants. La thèse, c'est quand même quelque chose de relativement compliqué, donc ça ne se fait pas sans formation. Mais on peut très bien être maître de stage, ce qu'on appelle MSU, maître de stage universitaire, sans pour autant accompagner des étudiants dans leur thèse.
Alors, je reviens sur ce que vous indiquiez sur la subtilité entre être tuteur et maître de stage, parce que du coup vous êtes maître de stage pour David et Nicolas actuellement, mais cela veut dire que par exemple exemple, pour David qui débute son internat, vous êtes son tuteur, vous allez le suivre tout au long de son internat.
C'est exactement ça. Nicolas, je ne suis pas son tuteur, il a un tuteur propre qui le suit normalement dans... ce que les gens ne connaissent pas, c'est toute la partie off. C'est-à-dire, il voit les médecins soignés au cabinet, il voit les internes exercer au cabinet, mais il ne voit pas aussi tout ce qu'on leur demande sous forme d'écrit, sous forme de traces d'apprentissage. Et le tuteur est là pour accompagner l'étudiant. Donc David, en effet, je le suivrai jusqu'à sa thèse en l'accompagnant dans sa rédaction des traces d'apprentissage. C'est un véritable compagnonnage.
Nicolas, vous êtes actuellement dans la dernière ligne droite puisque vous êtes dans votre dernier semestre d'internat, dans un statut dit « ça se passe ». Pouvez-vous nous parler de cette période particulière de l'internat qui vient clôturer vos études et en même temps, quelle expérience retenez-vous de ces trois dernières années ?
Oui, pendant cette formation d'internat, j'ai été amené à pratiquer la médecine dans différentes situations, toutes très enrichissantes pour ma pratique future. J'ai réalisé un stage d'urgence à l'hôpital de Guéret, ce qui m'a permis de m'adapter aux soins de premier recours et à l'évaluation de la gravité. Puis deux stages à l'hôpital de Tulle, où je me suis beaucoup plu. Mon premier dans le service de cardiologie, que j'ai choisi pour mieux appréhender notamment la prise en charge de l'insuffisance cardiaque. Puis un second stage en pédiatrie, qui a facilité mon approche dans la pratique de la médecine auprès des enfants. Et enfin, actuellement, je suis en stage de médecine générale en autonomie supervisée, avec trois maîtres de stage différents, dont le docteur Todin, avec lequel j'interviens sur le secteur hébergement de l'hôpital de Bord, notamment. Mon dernier stage sera consacré à la santé de la femme, afin de faire lien avec mon sujet de thèse qui concerne les différentes prescriptions de contraception en médecine générale.
Alors, David, pour vous, à contrario, c'est le début de l'internat. Pouvez-vous nous partager votre expérience de ce premier semestre, de la façon dont vous voyez le déroulement de ces trois prochaines années ?
Oui, alors jusqu'à présent, moi je suis très heureux d'être ici. Être interne, c'est super intéressant. J'ai beaucoup moins l'aspect scolaire. Maintenant, je suis avec les professionnels et les patients toute la journée. J'apprends beaucoup et mes maîtres de stage sont tous compétents, pédagogues, compréhensifs et super sympas. Les patients jouent le jeu, donc vraiment, je pourrais rien demander de plus. Pour ces trois années, moi, j'aimerais rester dans le coin, au moins en Corrèze. Mon projet professionnel n'est pas encore fixé. Alors, je suis partagé entre rester ici ou rentrer à Toulouse. Mais si je reste ici, je pense que ce serait une vraie force de passer dans les services d'Ussel, Tulle ou Brive. Ça me permettrait de commencer à tisser des liens dès maintenant avec les acteurs de la région et de voir le parcours d'un patient dans sa globalité.
Alors, donc tout à l'heure, Nicolas parlait du stage libre sur la période d'internat. Pour ce stage libre, avez-vous d'ores et déjà une idée de la spécialité qui viendra compléter votre cursus ?
J'ai encore le temps pour choisir, hein, mais probablement quelque chose de très généraliste. Donc, un service de soins de suivi ou un service polyvalent. Ou sinon, j'ai un faible pour la cardiologie.
Nous parlions tout à l'heure, en dehors de l'émission, lors de la préparation, justement du fait que ce stage en choix libre n'était pas si évident que ça, puisque du coup les places étaient c'était des places proposées finalement par l'université.
Tout à fait, les choix se font sur une liste proposée par la faculté, un nombre de postes bien défini. On peut faire des demandes spécifiques pour intégrer des services, mais il est parfois difficile de mettre deux internes sur le même poste.
On peut dire que le premier arrivé est le premier servi, en fait.
Tout à fait, oui.
D'accord, donc on n'a pas forcément le stage de son choix. Alors, docteur Todin, comment coordonne-t-on tout cela du point de vue du médecin, maître de stage et tuteur ? Pouvez-vous nous expliquer les subtilités d'accompagnement en fonction du cursus ?
Comment coordonne-t-on tout cela ? Déjà avec un bon agenda électronique pour ma part, parce que ça demande une bonne organisation du temps. Les subtilités d'accompagnement, c'est essentiellement de la pédagogie. C'est-à-dire que quand on reçoit un interne, les premières semaines sont essentiellement consacrées à l'évaluation de l'interne. Évaluation de ses capacités, évaluation de ce qui lui reste à apprendre ou à acquérir. Je dis souvent que je ne leur apprends pas à faire de la médecine. Ça, faire de la médecine, ils connaissent, ils ont leurs études, ils ont souvent des savoirs qui sont même plus récents que les miens. Par contre, je vais leur apprendre à être médecin.
Alors, la difficulté peut-être pour vous, c'est d'avoir deux étudiants sur un même semestre, et donc qui sont à des stades différents de leur internat.
Alors, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, Nicolas est en autonomie quasiment complète, supervisée mais quasiment complète, et David n'est pas encore en autonomie complète. Mais cela viendra, mais c'est normal, c'est le cadre de l'apprentissage. Ce n'est pas spécialement difficile d'avoir deux étudiants en même temps, d'autant plus qu'ils ne sont pas là tous les jours. Et donc, il suffit de se coordonner avec les autres maîtres de stage. Et c'est aussi un des rôles du coordinateur des stages, parce qu'il y a aussi le rôle du coordinateur de stage, qui est celui de répartir sur un calendrier les étudiants sur leurs trois maîtres de stage.
Alors, au-delà de l'intérêt certain que vous portez au compagnonnage et à la transmission de votre expérience auprès de ces étudiants, n'y a-t-il pas une volonté de faire connaître notre territoire, la médecine dite rurale et l'hôpital de bord ?
Alors, comme vous le dites, oui, le compagnonnage est quelque chose de très important, à mon sens. Nous ne sommes pas dans un rôle de professeur, nous sommes vraiment dans un rôle d'accompagnant. Pour ce qui est de la volonté de faire connaître le territoire, bien évidemment, je suis tombé amoureux il y a 30 ans de ce territoire en arrivant, de Bord et de sa région, et bien évidemment, j'ai envie de le faire connaître. Et au-delà de tout ça, si un interne trouve plaisir à venir à Bord, c'est en faisant connaître notre territoire que je le garderai.
Alors, pour revenir sur ce que vous disiez donc au tout départ, donc concernant le compagnonnage, lorsque nous avons préparé l'émission, vous avez parlé d'un élément qui m'a marqué, à savoir qu'à votre époque, lorsque les étudiants arrivaient au stade de l'internat, c'était l'apprentissage par l'échec,
oui, malheureusement,
non pas le compagnonnage.
Malheureusement, il y a toute une époque, et j'en ai eu fait partie, où on avait très peu de formation de troisième cycle. On avait quelques cours, mais en tout cas pas d'apprentissage à être médecin. On avait essentiellement un enseignement par l'échec. Maintenant, c'est un véritable compagnonnage, et donc on accompagne les étudiants jusqu'à temps qu'ils soient autonomes et pour faire d'eux d'excellents médecins.
On va revenir en fait sur le sujet de l'hôpital. En fait, quels sont les avantages pour l'hôpital de Bord ?
Pour l'avantage de Bord, ils sont évidents. Déjà, c'est le fait que l'hôpital de Bord est donc un pied à la faculté. Et puis, c'est aussi faire participer des étudiants à l'offre de soins locale, des étudiants qui sont médecins, je le répète, même s'ils sont supervisés, ils participent aux soins au sein de l'hôpital de Bord, sur la partie libérale. Et puis, c'est ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire que si un interne tombe amoureux de la région, comme je suis tombé amoureux il y a 30 ans, eh bien, il pourra rester et qui sait, me succéder.
Alors, justement, nous allons faire le lien avec cette ruralité, parce que vous avez, Nicolas et David, tous les deux abordé le sujet de la ruralité à plusieurs reprises depuis le début de l'émission. J'aimerais avoir votre vision des choses, en fait. Qu'est-ce qui vous a amené vers cette médecine rurale et voilà, quelle est votre vision des choses ?
Oui, moi, la médecine rurale me permet de me rapprocher de cette notion de médecin de famille auquel je tiens beaucoup, comprendre les patients pour mieux les soigner. La difficulté pour les jeunes médecins qui souhaitent s'installer en zone rurale, c'est de pouvoir proposer aux conjoints un projet de vie qui correspond à toutes leurs attentes, par exemple un emploi, un lieu de vie ou des scolarisations. De mon côté, j'ai un projet pour m'installer dans le Lot, région dans laquelle ma compagne est déjà installée professionnellement, dans une zone rurale qui est en sous-effectif de médecins. Par conséquent, il sera plus facile pour moi de m'installer dans une commune où un médecin généraliste est très attendu. C'est donc un projet de vie qui se compose à deux.
David, c'est exactement ce que vous exprimiez aussi lorsque nous avons préparé l'émission.
Oui, tout à fait. Oui, je rejoins Nicolas. Oui, je pense qu'il faut comprendre qu'après 10 ans d'études, on a des compagnes, on a parfois des enfants, on a des familles, et du coup, c'est pas tellement les difficultés avec la médecine rurale qu'on peut avoir, parce que je pense que c'est très intéressant, mais c'est juste avec la ruralité tout court, il faut que ça soit un projet de vie qui s'accorde avec tous les membres de la famille.
Alors, je voudrais juste signaler que les communes, et particulièrement la commune de Bord, et puis la communauté de communes, ont mis en place des dispositifs qui permettent d'accompagner aussi les conjoints, pas seulement conjointe, mais aussi conjoint des futurs étudiants en médecine et des futurs installés sur le territoire.
Oui, c'est important de le préciser. À compter de la rentrée 2023, les nouveaux internes auront 4 ans pour se former au métier de médecin généraliste au lieu de 3 aujourd'hui. L'internat est l'aboutissement d'études longues et fastidieuses qui sera clôturée par la présentation de la thèse « Moment solennel, émouvant durant lequel le médecin est déclaré docteur en médecine et durant lequel il s'engage devant tous en prononçant le serment d'Hippocrate ». L'ensemble des règles morales de l'art de guérir, établies par Hippocrate, acceptées sous forme de serment, presque sans changement en France depuis le XVe siècle, a été rendu obligatoire lors de la soutenance de thèse dans toutes les facultés de médecine par l'édit royal de 1707. Il est toujours appliqué à ce jour. Considéré comme le plus illustre des médecins de l'Antiquité, Hippocrate fut le premier à prôner l'examen clinique et l'établissement du diagnostic à partir de l'observation objective du malade. Il préconisait des traitements simples, des régimes bien équilibrés. Docteur, pouvez-vous partager avec nos auditeurs ce serment d'Hippocrate ?
Donc c'est toujours avec beaucoup d'émotion que je récite ce serment d'Hippocrate qui est prêté en levant la main au moment devant l'Assemblée des juges qui donnent la thèse, donc au moment où la thèse vient d'être validée. Le serment d'Hippocrate, tel qu'il est encore prêté dans les facultés de médecine, la soutenance de thèse peut varier d'une faculté à l'autre, mais l'essentiel est là. Au moment d'être admis à exercer la médecine, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans ses éléments physiques et mentaux, individuels et sociaux. Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon leur état ou leurs convictions. J'interviendrai pour le protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l'humanité. J'informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences. Je ne tromperai jamais leur confiance et n'exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances pour forcer les consciences. Je donnerai mes soins à l'indigent et à quiconque me le demandera. Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire. Admis dans l'intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés. Reçu à l'intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma conduite ne servira pas à corrompre les mœurs. Je ferai tout pour soulager les souffrances, je ne prolongerai pas abusivement les agonies, je ne provoquerai jamais la mort délibérément. Je préserverai l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de ma mission. Je n'entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. Je les entretiendrai et les perfectionnerai pour assurer au mieux les services qui me seront demandés. J'apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu'à leurs familles dans l'adversité. Que les hommes et mes confrères m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses. Que je sois déshonoré et méprisé si j'y manque.
Alors voilà pourquoi il était important de vous présenter ces jeunes médecins et leurs maîtres de stage si investis au quotidien et qui permettent aux concitoyens de notre territoire de conserver une médecine de proximité en ville comme à l'hôpital. Merci beaucoup Nicolas, David, Docteur d'avoir co-animé avec moi cette émission en espérant qu'elle vous aura intéressé, chers auditeurs, autant que j'ai eu le plaisir de la préparer avec mes invités. Au revoir à tous et à très vite pour une prochaine émission.
Au revoir à tous.
Merci à tous les trois. Au revoir.
Depuis que je suis militaire, ce n'est pas rigolo entre nous. Je suis d'une santé précaire et je me fais un mauvais sang fou. J'ai beau vouloir me remonter, je souffre de tous les côtés. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foin qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier anémié, l'estomac bien trop bas et les côtes bien trop hautes, j'ai les hanches qui se démangent, j'ai l'épigastre qui s'encastre, l'abdomen qui se démène, j'ai le thorax qui se désaxe, la poitrine qui se débine, les épaules qui se frôlent, j'ai les reins bien trop fins, les boyaux bien trop gros, j'ai le sternum qui se dégomme et le sacrum c'est tout comme, j'ai le nombril tout en vrille et le coccyx qui se dévisse. Ah mon Dieu que c'est embêtant d'être toujours patraque, ah mon Dieu que c'est embêtant, je ne suis pas bien portant. Afin de guérir au plus vite, un matin tout dernièrement, je suis allé à la visite voir le major du régiment. D'où souffrez-vous qui m'a demandé? C'est bien simple que j'ai répliqué. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier anémié, l'estomac bien trop bas et les côtes bien trop hautes, j'ai les hanches qui se démangent, j'ai l'épigastre qui s'encastre, l'abdomen qui se démène, j'ai le thorax qui se désaxe, la poitrine qui se débine, les épaules qui se frôlent, j'ai les reins bien trop fins, les boyaux bien trop gros, j'ai le sternum qui se dégomme et le sacrum, c'est tout comme, j'ai le nombril tout en vrille et le coccyx qui se dévisse, et puis j'ai ajouté, voyez-vous, ce n'est pas tout, j'ai les genoux qui sont mous, j'ai le fémur qui est trop dur, j'ai les cuisses qui se raidissent, les guiboles qui flageolent, j'ai les chevilles qui se tortillent, les rotules qui ondulent, les tibias à plat plat, les mollets trop épais, les orteils pas pareil, j'ai le cœur en largeur, les poumons tout en long, l'occiput qui chahute, j'ai les coudes qui se dessoudent, j'ai les seins sous le bassin et le bassin qui est pas sain. En plus de ça, je vous le cache pas, j'ai aussi quel souci, la luette trop fluette, l'œsophage qui surnage, les gencives qui dérivent, j'ai le palais qui est pas laid, mais les dents c'est navrant, j'ai les petites qui s'irritent et les grosses qui se déchaussent, les canines se ratatinent, les molaires se font la paire, dans les yeux c'est pas mieux, j'ai le droit qui est pas droit et le gauche qui est bien moche, j'ai les cils qui se défilent, les sourcils qui s'épilent, j'ai le menton qui est trop long, les artères trop épaires, j'ai le nez tout bouché, le trou du cou qui se découle et du coup, voyez-vous, je suis gêné pour parler, c'est vexant, car maintenant je suis forcé de m'arrêter. Ah mon excitant d'être toujours t'attraque. Ah mon excitant d'être, je ne suis pas bien content.